On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au goulag, d'ailleurs comme dans la vie de tous les jours, on l'a vu, hein, ce sont, sous des apparences parfois très insignifiantes, eh bien se passent des choses extraordinaires dans les âmes des gens. Et certains vont, à travers les souffrances et l'injustice, ça va être l'occasion pour eux d'opérer une véritable conversion et même une sainteté. Et voici un des exemples les plus significatifs rapportés par Solzhenitsyn. Je fis la connaissance d'un poète religieux, Anatole Vassilievitch Siline. Il avait la quarantaine et rien d'extraordinaire ne transparaissait. Après seulement que nous eûmes sérieusement lié conversation et commencé les dimanches où on ne travaillait pas à nous promener ensemble, pendant lesquels eh bien, il me récitait ses longs poèmes spirituels, comme moi, qui j'écrivais aussi en ce temps au camp, eh bien, une fois de plus, je fus frappé de voir à quel point sont trompeusement cachées sous une apparence commune des âmes hors du commun. Ancien enfant abandonné, expansionnaire de l'assistance athée, il en était arrivé, prisonnier de guerre en Allemagne, au livre de religion. Et ceci avait fait sa conquête. Depuis lors, il était devenu non seulement croyant, mais philosophe et théologien. Et comme depuis lors, justement, il n'avait cessé d'être enfermé de prison en camp, eh bien, il lui avait fallu parcourir seul ce chemin théologique. Redécouvrant pour son propre compte ce qui avait été déjà découvert sans lui. En se trompant peut-être, car depuis lors il n'avait eu ni livre ni conseiller. En ce moment, il travaillait comme manœuvre et terrassier, et il s'efforçait de remplir une norme irremplaçable. Il revenait fatigué, les mains tremblantes, mais jour et soir, tournoyait dans sa tête ses poèmes. Tous de quatre pieds, avec libre distribution de rimes, composés de têtes du début à la fin. À cette époque-là, il en savait déjà, je pense, dans les 20 000. 20 000 vers. Au goulag, en bossant toute la journée. Et dans ses temps libres, il compose des vers et il en a retenu 20 000. Sa théodicée, donc sa théologie, naturel, autrement dit sa façon de justifier l'existence du mal dans le monde était reformulée ainsi en poème. Si l'esprit de perfection admet l'imparfait, la douleur, c'est que c'est la condition pour mieux apprécier le bonheur. Dure la loi, seulement elle nous permet à nous mortels d'atteindre à la paix grande et éternelle. Et les souffrances du Christ, incarnées dans la chair de l'homme, étaient ainsi expliquées par lui avec hardiesse, non seulement par la nécessité de racheter les péchés du monde, ce qui est vrai bien sûr, mais aussi par le désir éprouvé par Dieu de ressentir tour à tour les souffrances terrestres. Et c'est très juste. On n'y pense pas, mais c'est vrai. Siline affirmait donc audacieusement, Dieu a toujours connu, de manière intellectuelle, que les souffrances existaient. Mais avant, il ne les avait jamais ressentis. Il n'avait pas de chair, pas de corps. Mais une fois que Dieu s'est incarné, il a ressenti les souffrances qu'il connaissait. Comme on pourrait connaître une maladie qu'on n'a jamais eue. Mais le jour où on l'a, là on la connaît la maladie. Autrement. On la redécouvre dans nos sens. Et l'incarnation, Dieu a voulu aussi faire cela. Pour être un exemple. pour pas seulement dire « il ne l'a pas fait ». Il dit parce qu'il l'a fait avant. C'est cet homme du goulag qui fera une des plus belles et des plus courtes réfutations du matérialisme et justification du christianisme. À propos de l'impulsive perspexité avec laquelle les matérialistes se demandent comment donc l'esprit a-t-il pu engendrer la matière. Hein, on se moque de nous en disant la création, c'est votre mystère, c'est n'importe quoi là. Comment voulez-vous qu'un esprit crée de la matière? C'est vrai, on ne sait pas comment Dieu a créé. Ça reste très mystérieux. Alors, réfutation de Céline. Il refuse de se le demander, mais enfin, comment la matière grossière a-t-elle bien pu engendrer l'esprit? Dans cette filiation-là, c'est encore un miracle encore plus grand, et surtout, là, pour le coup, on est dans la stupidité. Comment, puisque c'est ça la doctrine évolutionniste. Il y a de la matière, et un jour, il y a eu un esprit. Non, là, ça ne marche plus. Là, on est dans l'absurde. Avant, on est dans le mystère. Il y a un esprit puissant qui peut créer de la matière. Ça, c'est possible. Mystérieux, mais possible. Mais la matière qui donne un esprit, comme le voudrait l'évolution, non, ça, c'est de l'absurdité. Et on rigole. Avec son numéro caché à quatre signes accrochés, esclave, exténué et voué à la mort, ce poète avait dans sa poitrine plus à dire aux vivants que le troupeau entier des incrustés dans les revues, les maisons d'édition, de la radio, qui sont inutiles à tout le monde si ce n'est à eux-mêmes. Et ça, on le voit bien souvent. On rencontre dans la vie une personne qui paye bonne mine, mais il y a une sagesse en lui. Limitée, mais il y a une sagesse. Alors qu'on donne la parole à des idiots qui n'ont aucune sagesse. Avant la guerre, Anatole Vassilievitch Céline avait obtenu le diplôme de faculté de lettres dans un institut pédagogique. Actuellement, il ne restait plus, tout comme moi, que 3 ans avant d'être libéré en relégation. Sa seule et unique spécialisation était l'enseignement de la littérature à l'école. Il paraissait peu probable qu'on nous acceptât, nous, anciens détenus, dans une école. Mais enfin, si c'était le cas, eh bien, Céline répondait, « Eh bien, je n'irai pas inculquer le mensonge aux enfants. Je leur dirai la vérité sur Dieu et sur la vie de l'esprit. » Mais, dit le génocide, mais on va vous révoquer dès votre premier cours. Céline baissa la tête et répondit à voix basse, « Soit. » Et l'on voyait qu'il ne tremblait pas, qu'il ne dissimulerait pas pour pouvoir se cramponner à son cahier de texte au lieu de manier le pic. C'est un héros, ça. C'est avec pitié et ravissement que je contemplais ce rouquin, si peu avenant, qui n'avait pas connu ses parents, qui n'avait pas eu de maître à penser, et qui de tout temps avait eu autant à vivre qu'aujourd'hui à retourner le sol pierreux du goulag. Le jour du jugement, il y aura de très très grosses surprises. Bien sûr, ces cas merveilleux restent minoritaires. Une majorité, eh bien, vont dans le travail exténuant, dans les conditions de vie humaine qu'ils connaissent, eh bien, ça ne va pas être une occasion d'élévation pour eux, mais une occasion de chute, de dépravation. Parce que ces camps, bien sûr, n'ont pas été créés pour aider l'homme à se corriger, mais pour l'exploiter et le détruire. Il y a une logique, bien sûr, qui est perverse, qui va nous pousser eh bien, à des calculs mesquins, à la haine, à l'envie, à l'injustice, à la peur. Mais c'est la suite qui est intéressante de ces choses qu'on a déjà vues. La peur de quoi? La peur de perdre le misérable niveau de vie auquel tu t'accroches, de perdre ton travail qui n'est pas encore le plus dur, et de le retrouver et de te retrouver, toi, dans la zone disciplinaire. De plus, on te bat si tu es le plus faible, ou tu bats celui qui est plus faible que toi. N'est-ce pas là de la dépravation? Car l'assainissement du goulag engendre chez les détenus les pires des vices. Fausseté, ruse, couardise, pusillanimité, délation, vol. Bref, tout ce qu'on est en train de reconnaître, de revivre aujourd'hui, parce qu'en fait, les gens dans le goulag sont les mêmes que les gens hors du goulag, avec les mêmes vices. Comment se comportaient dans les camps les esprits authentiquement religieux? Solzhenitsyn, eh bien, les décrit comme une procession silencieuse. Donc, ça, pareil, ça paye pas de mine. C'était silencieux. Et qui tombait, fauché, comme par des rafales de mitraillettes. Et une nouvelle masse les remplaçait. Il y avait une fermeté inouïe, sans aucune ostentation, il n'y avait rien de déclamatoire. Il mourait, mais il ne se dépravait pas. Et certains ont même survécu sans se dépraver. Parmi eux, ceux aussi, bien sous la menace de la zone disciplinaire ou d'une nouvelle peine, eh bien, ils refusaient d'être mouchards. Et ce génie cite le cas de Grégoire Ivanovitch Grigoriev, un ingénieur des sols. Engagé en 1941, il est prisonnier de guerre. Il passe toute la guerre en captivité en camp de prisonniers allemands. Et fin de la guerre, libération, bien sûr, 10 ans de goulag pour propagande anticommuniste. Ça, c'est... Combien de soldats se sont battus pour eux, c'est effrayant, effrayant. Cet homme disait, donc plutôt Solzhenitsyn parle de cet homme, cet homme n'avait jamais abdiqué moralement et aucun non plus, il n'a pas ployé. Pourtant, sur ses 10 ans, il n'en fit que 2 dans sa spécialité. Et pendant presque toute sa peine, il ne reçut aucun colis. Donc il était seul. De toutes parts, on lui inculquait la philosophie des camps, la décomposition morale, mais il ne fut pas capable de l'assimiler. Dans les camps de Kemerovo, l'opère fit tout pour le recruter. Et lui, il leur répondait sans embâge, « Cela me dégoûte de parler avec vous. » Et donc, il ne fait pas dans la composition, hein. Il ne cache pas son jeu. « Vous me dégoûtez. » Vous trouverez de nombreux volontaires sans moi. Et l'opère lui disait, tu reviendras vers nous à plat ventre, espèce de canaille. Je préférais, réponse de l'autre, je préférais me pendre à la première branche venue. Bref, discours, vous imaginez. Il fut donc envoyé dans un camp disciplinaire. Et il eut à le subir 6 mois. Son honnêteté était fantastique, voire monstrueuse. Quand il allait trier les pommes de terre avec la brigade de conservation des légumes, il était le seul à ne pas voler. C'est sûr que ça, je ne comprends pas. Moi, je crois que j'aurais volé des pommes de terre. Je les aurais mangées. Casé dans une brigade privilégiée des ateliers de pelleterie et préposé aux appareils hydrauliques, il dut abandonner cette place parce qu'il refusait de laver les chaussettes du chef de chantier. Mais ça dans le monde du travail, il y a des choses comme ça. Hein, où on vous... Tout de suite, l'abus de chef, ça, c'est fréquent. Et voici ce que la morale de tout cela. Se dépravent dans les camps ceux qui, avant les camps, n'étaient nantis d'aucune morale, d'aucune éducation religieuse. Et notre demi-siècle en a produit des millions de gens comme ça, dit Solzhenitsyn. Se dépravent dans les camps ceux qui se dépravaient déjà alors qu'ils n'étaient en liberté, hors du camp, ou ceux qui étaient enclins à la dépravation. Car on se déprave aussi quand on est libre et parfois pire que dans les camps. Ça n'a pas besoin de photos, on le sait. Une femme du goulag, Tatiana Falike, eh bien, avait retiré de ses observations sur les hommes la conviction que, pour devenir dans les camps une canaille, il fallait l'avoir déjà été avant. Si un homme ne tarde pas à s'encanailler dans les camps, cela veut dire que, sans doute que sa nature, eh bien, canaille, se révèle en lui à ce moment-là, alors qu'auparavant, rien ne l'y forçait. Et ça, on le voit déjà nous-mêmes. On se croit doux parce que personne ne nous embête. Puis un jour, quelqu'un nous embête et là, on explose de colère. Puis on se rend compte qu'en fait, on n'est pas doux du tout. Et ça s'appelle le péché originel. On croit qu'on n'est pas une canaille, mais en fait, les circonstances peuvent montrer qu'on était une canaille. Votchenko, lui, pour Kotchenko, devenir une bête ou rester un homme dépendait de votre conscience. Oui, la dépravation dans les camps était un phénomène de masse. Non seulement parce que les camps étaient horribles, mais parce que nous, hommes soviétiques, nous posions le pied sur le sol de l'archipel spirituellement désarmé. Spirituellement désarmé. Depuis longtemps mûr pour la dépravation, atteint par elle bien avant notre arrestation. Et ça, c'est vrai de notre humanité. Les hommes sont mûrs pour être des canailles, parce qu'ils vivent comme des canailles, ils n'ont aucune vie spirituelle. Ils vivent dans l'égoïsme, dans l'orgueil, dans l'ambition et dans l'impureté. Nous étions toutes oreilles quand les vieux routiers des camps nous expliquaient comment il fallait vivre, c'est-à-dire survivre à tout prix. Mais comment il faut vivre et mourir, nous aurions dû le savoir indépendamment du camp, ce n'est pas une question à poser. On sait très bien comment il faut vivre, que ce soit dans un goulag ou hors du goulag. Si la dépravation était à ce point inéluctable, pourquoi donc Olga Lovna Schlossberg n'a-t-elle pas abandonné son amie qui allait mourir de froid sur une route en pleine forêt? Pourquoi est-elle restée quasi certaine de ne pouvoir périr avec elle? Or, elle l'a sauvée. Pourquoi celui-là ne s'est-il pas dépravé? Et tous les survivants ne se souviennent-ils pas d'un tel ou d'un tel qui leur a tendu la main, qui les a sauvés à un moment crucial? Donc, ils n'ont pas appliqué la logique du goulag, qui est de « à toi de crever aujourd'hui, moi c'est pour demain. Moi je vais vivre à tout prix. » Oui, les camps avaient pour finalité la dépravation, mais cela ne signifie pas qu'ils arrivaient à écraser chacun, même si la masse, oui, était écrasée. Et concluons avec cette remarque sur les chrétiens de Solzhenitsyn. Les chrétiens constituaient le principal détachement des victimes du goulag qui ne connurent pas la dépravation. Pas tous, mais de manière majoritaire. Rugueux, peu instruit, incapable de parler du haut d'une tribune ou de rédiger un appel clandestin, il partait pour les camps au-devant du martyr et de la mort, uniquement pour ne pas avoir renié leur foi. Eux, ils savaient parfaitement pourquoi ils y étaient, et ils demeuraient inébranlables dans leurs convictions. Contrairement à ces communistes qui, du jour au lendemain, la machine les broie. Ils ne comprennent pas si c'était des bons communistes. Puis sont broyés. Matérialistes en plus. Voilà, pour eux, on a vu comment c'était horrible pour eux. Mais pour un chrétien, il sait très bien ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe. Il sait le combat, l'enjeu qui est. Ils sont les seuls et uniques, peut-être sur lesquels n'ont pas pris la philosophie, ni même la langue des camps. Et les femmes étaient particulièrement nombreuses dans leur rang. Les chrétiens furent une multitude de convois, de charniers, mais qui comptera ces millions? Ils ont péri dans l'obscurité, n'éclairant comme une chandelle que leur immédiate proximité. C'étaient les meilleurs chrétiens de la Russie, les pires ont tous tremblé ou renié, se sont tapis. Voilà. Puissions-nous faire partie de ces meilleurs chrétiens de la Russie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. Paniquer. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Respirez plus.